Philos Amourons. Chaque semaine, je vous lis quelques chapitres de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes pour méditer sur ce qui nous bouleverse tous, l'amour. Roland Barthes a écrit en 77 son ouvrage sous une forme de dictionnaire dans lequel il décortique chacun des aspects du sentiment amoureux. Il s'appuie sur des romans, notamment Les souffrances du jeune Werther de Goethe et La recherche du temps perdu de Proust, mais aussi sur des philosophes, des psychologues et sur son propre vécu. Cette semaine, image, inconnaissable, induction, informateur, insupportable et issue. Dans le champ amoureux, les blessures les plus vives viennent davantage de ce que l'on voit que de ce que l'on sait. Tout d'un coup, au retour du vestiaire, il les voit en conversation tendre, penchés l'un vers l'autre. L'image se découpe. Elle est pure et nette comme une lettre. Elle est la lettre de ce qui me fait mal. Précise, complète, fignolée, définitive. Elle ne me laisse aucune place. J'en suis exclue comme de la scène primitive, qui n'existe peut-être que pour autant qu'elle est découpée par le contour de la serrure. Voici donc enfin la définition de l'image, de toute image. L'image, c'est ce dont je suis exclue. Au contraire de ces dessins rébus où le chasseur est secrètement dessiné dans le fouillis d'une frondaison, je ne suis pas dans la scène. L'image est sans énigme. L'image est péremptoire. Elle a toujours le dernier mot. Aucune connaissance ne peut la contredire, l'aménager, la subtiliser. Werther sait bien que Charlotte est promise à Albert, et en somme, il n'en souffre que vaguement. Mais il lui court un frisson par tout le corps lorsqu'Albert étreint sa svelte taille. Je sais bien que Charlotte ne m'appartient pas, dit la raison de Werther, mais tout de même, Albert me la vole, dit l'image qu'il a sous les yeux. Les images dont je suis exclue me sont cruelles. Mais parfois aussi, un retournement, je suis prise dans l'image. M'éloignant de la terrasse de café où je vais laisser l'autre en compagnie, je me vois partir seule, marchant, un peu tassée dans la rue déserte. Je convertis mon exclusion en image. Cette image, où mon absence est prise comme dans une glace, est une image triste. Une peinture romantique de Friedrich montre dans une lumière polaire un amoncellement de débris glacés. Nul homme, nul objet n'habite cet espace désolé. Mais par là même, pour peu que je sois en proie à la tristesse amoureuse, ce vide demande que je m'y projette. Je me vois comme une figurine assise sur l'un de ces blocs abandonnés à jamais. J'ai froid, dit l'amoureux, rentrons. Mais il n'y a nulle route. Le bateau est brisé. Il y a un froid spécial de l'amoureux. Frilosité du petit homme d'animal qui a besoin de la chaleur maternelle. Ce qui me blesse, ce sont les formes de la relation, ces images. Ou plutôt ce que les autres nomment forme, je l'éprouve moi comme force. L'image, comme l'exemple pour l'obsessionnel, est la chose même. L'amoureux est donc artiste. Et son monde est bien un monde à l'envers, puisque toute image y est sa propre fin, rien au-delà de l'image. Inconnaissable. Effort du sujet amoureux pour comprendre et définir l'être aimé en soi, au titre de type caractériel, psychologique ou névrotique, indépendamment des données particulières du rapport amoureux. Je suis prise dans cette contradiction. D'une part, je crois connaître l'autre mieux que quiconque et le lui affirme triomphalement. Moi, je te connais, Il n'y a que moi qui te connaisse bien. Et d'autre part, je suis souvent saisie de cette évidence. L'autre est impénétrable, introuvable, intraitable. Je ne puis l'ouvrir, remonter à son origine, défaire l'énigme. D'où vient-il? Qui est-il? Je m'épuise, je ne le saurai jamais. De tous ceux que j'avais connus, X était à coup sûr le plus impénétrable. Cela venait de ce qu'on ne connaissait rien de son désir. Connaître quelqu'un, n'est-ce pas seulement ceci, connaître son désir? Je connaissais tout, immédiatement, des désirs de Y. Il m'apparaissait alors cousu de fil blanc, et j'étais enclin à l'aimer non plus avec terreur, mais avec indulgence, comme une mère aime son enfant. Retournement. Je n'arrive pas à te connaître veut dire « je ne saurai jamais ce que tu penses vraiment de moi ». Je ne puis te déchiffrer parce que je ne sais comment tu me déchiffres. Se dépenser, se démener pour un objet impénétrable, c'est de la pure religion. Faire de l'autre une énigme insoluble dont ma vie dépend, c'est le consacrer comme Dieu. Je n'arriverai jamais à défaire la question qu'il me pose. L'amoureux n'est pas Œdipe. Il ne me reste plus alors qu'à renverser mon ignorance en vérité. Il n'est pas vrai que plus on aime, mieux on comprend. Ce que l'action amoureuse obtient de moi, c'est seulement cette sagesse que l'autre n'est pas à connaître. Son opacité n'est nullement l'écran d'un secret, mais plutôt une sorte d'évidence en laquelle s'abolit le jeu de l'apparence et de l'être. Il me vient alors cette exaltation d'aimer à fond quelqu'un d'inconnu et qui le reste à jamais. Mouvement mystique. J'accède à la connaissance de l'inconnaissance. Ou encore, au lieu de vouloir définir l'autre, qu'est-ce qu'il est, je me tourne vers moi-même. Qu'est-ce que je veux, moi qui veux te connaître? Qu'est-ce que cela donnerait si je décidais de te définir comme une force et non comme une personne? Et si je me situais moi-même comme une autre force en face de ta force? Cela donnerait ceci. Mon autre se définirait seulement par la souffrance ou le plaisir qu'il me donne. Induction. L'être aimé est désiré parce qu'un autre ou d'autres ont montré au sujet qu'il est désirable. Tout spécial qu'il soit, le désir amoureux se découvre par induction. Peu avant de tomber amoureux, Werther rencontre un jeune valet qui lui raconte sa passion pour une veuve. L'image de cette fidélité, de cette tendresse me poursuit partout, et comme brûlé moi-même de ce feu, je languis, je me consume, dit ce valet. Après quoi, il ne reste plus à Werther qu'à tomber amoureux à son tour de Charlotte. Et Charlotte elle-même lui sera désignée avant qu'il la voie, dans la voiture qui les emmène au bal. Une amie obligeante lui dit combien Lotte est belle. Le corps qui va être aimé est à l'avance cerné, manié par l'objectif, soumis à une sorte d'effet zoom qui le rapproche, le grossit et amène le sujet à y coller le nez. N'est-il pas l'objet scintillant qu'une main habile fait miroiter devant moi et qui va m'hypnotiser, me capturer? Cette contagion affective, cette induction, part des autres, du langage, des livres, des amis. Aucun amour n'est originel. La culture de masse est machine à montrer le désir. Voici qui doit vous intéresser, dit-elle, comme si elle devinait que les hommes sont incapables de trouver tout seul qui désirait. La difficulté de l'aventure amoureuse est dans ceci. Qu'on me montre qui désirer, mais ensuite qu'on débarrasse. Épisode innombrable où je tombe amoureuse de qui est aimé de mon meilleur ami. Tout rival a d'abord été maître, guide, montreur, médiateur. « pour te montrer là où est ton désir, il suffit de te l'interdire un peu. S'il est vrai qu'il n'y a pas de désir sans interdit. X souhaite que je sois là, à ses côtés, tout en le laissant un peu libre. Souple, m'absentant parfois, mais restant non loin. Il faut d'une part que je sois présente comme interdite, sans lequel il n'y aurait pas de bon désir, mais aussi que je m'éloigne au moment où ce désir s'étant formé, je risquerais de l'encombrer. Il faut que je sois la mère suffisamment bonne, protectrice et libérale, autour de laquelle joue l'enfant pendant qu'elle coud paisiblement. Telle serait la structure du couple réussi. Un peu d'interdit, beaucoup de jeu. Désigner le désir et puis le laisser à la façon de ces indigènes obligeants qui vous montrent bien le chemin sans pour autant s'entêter à vous accompagner. Thank you. informateur. Figure amicale qui semble cependant avoir pour rôle constant de blesser le sujet amoureux en lui livrant, comme si de rien n'était sur l'être aimé, des informations anodines, mais dont l'effet est de déranger l'image que le sujet a de cet être. Gustave, Léon et Richard forment un clan. Urbain, Claudius, Étienne et Ursule un autre. Abel, Gontran, Angèle et Hubert un autre encore. J'emprunte ces prénoms à Palud de Gide, qui est le livre des prénoms. Cependant, Léon fait un jour la connaissance d'Urbain, qui fait la connaissance d'Angèle, qui, au reste, connaissait un peu Léon, etc. Il se forme ainsi une constellation. Chaque sujet est appelé à entrer en rapport un jour avec son astre le plus éloigné et à s'entretenir avec lui de tous les autres. Tout finit par coïncider. C'est le mouvement même de la recherche du temps perdu qui est un immense micmac, un réseau farce. L'amitié mondaine est épidémique. Tout le monde s'attrape comme une maladie. Supposez maintenant que je lâche dans ce réseau un sujet douloureux, avide de maintenir avec son autre un espace étanche, pur, non touché, consacré. Les activités du réseau, son trafic d'informations, ses engouements, ses initiatives seront reçues comme autant de dangers. Et au milieu de cette petite société, à la fois village ethnologique et comédie de boulevard, structure parentale et imbroglio comique, se tient l'informateur, qui s'affaire et dit tout à tout le monde. L'informateur, ingénu ou pervers, a un rôle négatif. Si anodin que soit le message qu'il me passe, comme une maladie, il réduit mon autre à n'être qu'un autre. Je suis bien obligée de l'écouter, je ne puis mondainement laisser voir mon agacement. Mais je m'efforce de rendre mon écoute mate, indifférente, comme tassée. Ce que je veux, c'est un petit cosmos, avec son temps, sa logique. Habité seulement par nous deux, titre d'un magazine sentimental. Tout ce qui vient de l'extérieur est une menace, soit sous forme d'ennui, si je suis obligée de vivre dans un monde d'où l'autre est absent, soit sous forme de blessure, si ce monde me tient sur cet autre un discours indiscret. En me livrant sur qui j'aime une information insignifiante, l'informateur me découvre un secret. Ce secret n'est pas profond, il vient de l'extérieur. C'est l'extérieur de l'autre qui m'était caché. Le rideau s'ouvre à l'envers, non sur une scène intime, mais sur une salle publique. Quoi qu'elle dise, l'information m'est douloureuse. Un morceau mat, ingrat, de réalité me tombe dessus. Pour la délicatesse amoureuse, tout fait a quelque chose d'agressif. Un bout de science, fût-elle vulgaire, fait irruption dans l'imaginaire. Insupportable. Le sentiment d'une accumulation de souffrance amoureuse explose dans ce cri. Ça ne peut pas continuer. À la fin du roman, d'un mot qui précipitera le suicide de Werther, Charlotte, qui a aussi ses problèmes, finit par constater que cela ne peut continuer ainsi. Ce mot, Werther aurait pu le lui dire lui-même et très tôt, car il appartient à la situation d'amoureuse d'être tout de suite intolérable, dès que l'émerveillement de la rencontre est passé. Un démon nie le temps, la maturation, la dialectique et dit à chaque instant « ça ne peut pas durer ». Cependant, cela dure, sinon toujours, du moins à longtemps. La patience amoureuse a donc pour départ sa propre dénégation. Elle ne procède ni d'une attente, ni d'une maîtrise, ni d'une ruse, ni d'un courage. C'est un malheur qui ne s'use pas, à proportion de son acuité. Une suite d'à-coups. La répétition, comique, du geste par lequel je me signifie que j'ai décidé courageusement de mettre fin à la répétition. La patience d'une impatience. Sentiment raisonnable. Tout s'arrange, mais rien ne dure. Sentiment amoureux, rien ne s'arrange, et pourtant cela dure. Constater l'insupportable. ce cri est à son bénéfice. Me signifiant à moi-même qu'il faut en sortir par quelque moyen que ce soit, j'installe en moi le théâtre martial de la décision, de l'action, de l'issue. L'exaltation est comme le profit secondaire de mon impatience. Je m'en nourris, je m'y vautre. Toujours artiste, je fais de la forme même un contenu. Imaginant une solution douloureuse, renoncer, partir, je fais retenir en moi le fantasme exalté de l'issue. Une gloire d'abnégation m'envahit. Renoncer à l'amour, non à l'amitié, etc. Et j'oublie aussitôt ce qu'il faudrait alors sacrifier. Tout simplement ma folie, qui par statut ne peut se constituer en objet de sacrifice. Voit-on un fou sacrifiant sa folie à quelqu'un ? Pour le moment, je ne vois dans l'abnégation qu'une forme noble, théâtrale, ce qui est encore la retenir dans l'enceinte de mon imaginaire. Lorsque l'exaltation est tombée, j'en suis réduit à la philosophie la plus simple, celle de l'endurance. Dimension naturelle des fatigues vraies. Je subis sans m'accommoder, je persiste sans m'aguerrir. Toujours éperdu, jamais découragé. Je suis une poupée d'Aruma, un poussin sans jambes auquel on donne des chiquenaudes incessantes, mais qui finalement reprend son aplomb, assuré par une quille intérieure. Mais quelle est ma quille ? La force de l'amour ? C'est ce que dit un poème populaire qui accompagne ces poupées japonaises. Telle est la vie, tomber 7 fois et se relever 8. Issue. L'heure de solution, quelle qu'elle soit, qui procure aux sujets amoureux, en dépit de leur caractère souvent catastrophique, un repos passager. Manipulation fantasmatique des issues possibles de la crise amoureuse. Idée de suicide. Idée de séparation. Idée de retraite. Idée de voyage. Idée d'oblation. Etc. Je puis imaginer plusieurs solutions à la crise amoureuse, et je ne cesse de le faire. Cependant, quelque aliéné que je sois, il ne m'est pas difficile de saisir, à travers ces idées récurrentes, une figure unique, vide, qui est seulement celle de l'issue. Ce avec quoi je vis, complaisamment, c'est le fantasme d'un autre rôle, le rôle de quelqu'un qui s'en sort. Ainsi se dévoile, une fois de plus, la nature langagière du sentiment amoureux. Toute solution est impitoyablement renvoyée à sa seule idée. C'est-à-dire un être verbal. En sorte que finalement, étant langage, l'idée d'issue vient s'ajuster à la forclusion de toute issue. Le discours amoureux est en quelque sorte un huis clos de sortie. L'idée est toujours une scène pathétique que j'imagine et dont je m'émeus. Bref, un théâtre. Et c'est la nature théâtrale de l'idée dont je tire profit. Ce théâtre du genre stoïque me grandit, me donne de la stature. En imaginant une solution extrême, c'est-à-dire définitive, c'est-à-dire encore définie, je produis une fiction. Je deviens artiste. Je fais un tableau. Je peins ma sortie. L'idée se voit, tel le moment prégnant, doué d'un sens fort choisi du drame bourgeois. C'est tantôt une scène d'adieu, tantôt une lettre solennelle, tantôt, pour bien plus tard, un revoir plein de dignité. L'art de la catastrophe m'apaise. Toutes les solutions que j'imagine sont intérieures au système amoureux. Retraite, voyage, suicide. C'est toujours l'amoureux qui se cloître, s'en va ou meurt. S'il se voit cloîtré, parti ou mort, ce qu'il voit, c'est toujours un amoureux. je me commande à moi-même d'être toujours amoureuse et de ne plus l'être. Cette sorte d'identité du problème et de sa solution définit précisément le piège. Je suis piégée parce qu'il est hors de ma portée de changer de système. Je suis faite deux fois, à l'intérieur de mon propre système et parce que je ne peux pas lui en substituer un autre. Ce nœud double définit, paraît-il, un certain type de folie. Le piège se referme quand le malheur est son contraire. Pour que malheur il y ait, il faut que le bien lui-même fasse mal. Casse-tête. Pour en sortir, il faudrait que je sorte du système dont je veux sortir, etc. S'il n'était pas dans la nature du délire amoureux de passer, de tomber tout seul, nul ne pourrait jamais y mettre fin. Ce n'est pas parce qu'il est mort que Werther a cessé d'être amoureux, bien au contraire. C'était Philos Amouron, lecture de fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Cette semaine, nous avons vu les chapitres Images, Inconnaissables, Induction, Informateur, Insupportable et Issue. Et la semaine prochaine, nous continuerons avec Jalousie, Je t'aime, Langueur et Lettre. À la musique, Philo et le groupe Santal avec le morceau Right Way. À la lecture Gentiane. À la semaine prochaine.